une pomme d'un arbre. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait le pommier pour faire une pomme? Lui, là, il a pris ses feuilles d'arbre, là, il a pris du soleil, de la lumière, des photons, il a gobé ça, il a transformé ça, puis il en a fait une pomme à partir de la lumière. Hey! Comme si je te disais, toi, regarde une ampoule puis fais-moi un muffin.
On a reconnu André Sauvé, un des humoristes les plus aimés du public au Québec. Ça tombe bien, il est en studio. Salut, André.
Ben oui, bonjour.
Bonjour, André.
Bonjour, bonjour.
C'était un extrait du spectacle Ça.
Oui, exactement.
Et c'est très drôle parce que c'était un extrait, on a regardé dans les dates, c'était en 2018.
Ah oui?
Ça fait longtemps. Ben, ça veut dire que ça fait un bout que ça roule,
oui,
là, parce
oui,
qu'on célèbre cette semaine le 100 millième billet vendu.
Exactement, exactement.
Comment le spectacle a évolué depuis ce temps-là?
Ben, moi, c'est drôle, j'évolue pas beaucoup. Non, mais dans le sens, je fais beaucoup de travail en préparation puis en rodage. Mais une fois que ça se tient puis que ça marche, je touche plus à grand-chose.
Tu touches plus.
Je touche plus à grand-chose. Des fois, c'est le danger de... On voit une joke qui pogne quelque chose, puis la pousser, puis t'as poussé trop, puis là, ça marche plus. Fait qu'une fois que c'est canné, puis après ça, je travaille sur d'autres choses quand je vois que ça fonctionne.
André, dans l'extrait, on a entendu une joke sur l'effet de la lumière sur la végétation. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'au Québec, on a un humour très diversifié. Mm-hmm. On parlait de Mariana Mazza tantôt, qui a un humour beaucoup plus cru, que je trouve très drôle aussi. Ça me réjouit, puis c'est quasiment pas une question, c'est un commentaire. Ça me réjouit de savoir que tu puisses faire carrière en faisant des jokes sur la végétation.
Entre autres, ben, je me suis inspiré de plein de choses. J'ai appelé le show ça. Tu sais, qu'est-ce qui fait, comme ce que je venais de décrire là, qu'est-ce qui fait que ça le produit? Il y a une chose qui gère la nature, qui gère. Puis après ça, je récupère tout ça pour nous. C'est quoi ça en dedans de nous autres qui nous fait trouver notre chemin dans la vie? Qu'est-ce qui gère nos vies? Il y a toujours une partie, une donnée qu'on connaît pas, qu'on ne gère pas. Puis j'ai appelé le show ça pour ça parce que je sais pas comment ça s'appelle.
OK, mais comment tu fonctionnes? Tu t'en vas dans la nature puis tu regardes un peu ce qui se passe? Parce qu'il y a oui. des jokes d'orignaux, il y a des jokes... ça parle beaucoup du comportement. Donc, comment ça fonctionne, la création?
Bien, je regarde, j'observe ces choses-là. Puis après ça, je les amène à ça. Tu sais, comme par exemple une nuée d'oiseaux dans le ciel qui va tout virer en même temps, ou un banc de poissons qui veille tout en même temps. Hey, ça s'appelle le self-organization. C'est-à-dire que c'est une organisation, il y a un ordre qui est créé, mais à partir d'aucun individu du groupe. Mais tout le monde tourne à gauche, à droite, en bas, en même temps. Mais ça me fascine de voir qu'est-ce qui gère cette chose-là. Il y a quelque chose au-delà. Puis après ça, je le récupère à soi. Qu'est-ce qui gère nos vies? Il y a encore là cette donnée-là qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais j'observe ces choses-là, puis je les associe à l'être humain. Mais mes yeux se portent sur des choses comme ça.
Mais quand tu as commencé ta carrière, là, milieu des années 2000, André Sauvé, pensais-tu avoir un tel succès avec ce que tu avais à donner?
Non. Non, je pensais pas. Je suis allé là-dedans, mais en fait, quand ça a commencé, j'ai raconté l'histoire, ça a parti très, très vite. Puis
Sur
une gageure. Puis après, je me suis dit, bien, je vais faire ce qui, moi, m'interpelle, ce qui, moi, m'appelle. Je veux dire, j'en avais pas le rêve, donc je pouvais pas échouer un rêve. Oui, je l'avais oui. pas. Puis je vais faire
T'avais
ce qui, moi,
perdre.
M'interpelle. J'avais rien à perdre. Puis en quelque part, c'est cette je sais pas trop, cette vérité-là que je voulais explorer.
Mais rappelle-nous, la gageure, c'est... En fait, t'es allé déconstruire un poème, c'est ça? T'es monté oui. sur scène...
Oui, déconstruire le poème de Neely Gant, après ça que tout le monde avait vu le numéro, mais déconstruire ça, puis d'être vu par Judy Richard, puis Yvon Deschamps dans un petit concours, puis ça a parti très vite par la suite. Mais après ça, j'ai buildé sur des choses qui, moi, m'intéressaient, qui, moi, m'interpellaient, puis c'est ce que je fais encore aujourd'hui, puis ça trouve écho chez les gens. Et ça, j'en suis extrêmement content de ça, que ça trouve écho.
Tu déconstruis, t'as déconstruit un poème, c'est ce qui t'a lancé. Tu déconstruis le comportement humain aussi.
Parce que ça me fascine. C'est quelque chose qui me fascine. C'est quelque chose qui nous... J'ai un long numéro qui s'appelle « Les aléas ». C'est le numéro qui mène vers la fin. Comment ces choses-là imprévues dans la vie arrivent et comment on gère avec ces choses-là, les erreurs qu'on peut faire dans la vie. Comment on arrive à faire ce qu'on a fait? T'sais, vous êtes arrivé à être animateur. Comment ce chemin-là est arrivé? C'était pas tracé. Il y a du hasard, il y a des rencontres, il y a de l'intuition, il y a de la chance aussi là-dedans. Mais toutes ces petites composantes-là pour arriver à trouver un chemin, il y a aussi de la chance, je pense.
J'aime ça que tu parles de chance, puis ouais. Je rebondis là-dessus tout de suite, parce ouais. que dans l'admiration qu'on peut avoir pour les gens qui réussissent, puis des fois, on sacralise les gens qui réussissent, ouais. on pense qu'il n'y a que du calcul, du travail, puis du génie, mais il y, y a une grande part de chance.
Il y a une part de chance. Je ne sais pas lequel de pourcentage qui existe de chance, mais il y a aussi une part de chance. Pourquoi tu arrives à un coin de la rue puis tu croises quelqu'un et ton destin peut tourner, mais tu aurais pu arrêter, t'acheter un paquet de gomme pour sortir puis tu ne l'aurais pas croisé. Il y a une part de chance. Mais j'explore ça dans ce long numéro-là de la fin, les erreurs, les détours qu'on peut prendre.
Dans ton cas, André Sauvé, la part de chance dans le succès, dans une carrière foisonnante, ça a été quoi?
Je ne saurais pas le pourcentage, mais la part que je m'accorde, c'est d'avoir su dans la vie tourner des pages en sachant pas la suivante. Mmh. Ça, je m'accorde ce mérite-là. Tu sais, souvent, on se culpabilise, mais ça, je m'accorde une petite chandelle là-dessus d'avoir...
Un saut dans le vide.
Des sauts dans le vide. J'ai fait plusieurs sauts dans le vide, de tourner des pages en ne sachant pas la suivante. Et souvent, on s'agrippe à quelque chose par peur du vide. Et là, ça bouge pas, tu sais. Là, ça bouge pas. Donc, d'affronter, d'avoir été capable de plusieurs fois plonger dans le vide, puis de dire, OK, puis des fois, c'est pas parce qu'on plonge dans le vide que la réponse arrive le lendemain matin, là. Ça peut être long avant la suivante. Mais j'ai eu cette audace-là.
Effectivement, puis il y a eu, effectivement, cette chance où Yvon Deschamps et Judy Richard étaient dans la salle, s'ils n'avaient pas été dans la
Exactement.
Salle.
Exactement.
Qu'est-ce que tu serais devenu, André Sauvé?
Écoute, sinon? Je me pose parfois la question, et je ne le sais pas. Je sais pas. Il y a eu une part de chance que... Et c'est drôle, la veille qu'on est parti à ce concours-là, son auto est tombé en panne, puis j'ai eu un appel de Judy pour la lifter, comme on dit en bon français, jusqu'à Dégely, qui est 5 heures de route dans le Témiscouata. Puis je me suis retrouvé à aller la chercher. Fait qu'on a jasé tout le long dans l'auto, mais qu'elle soit là, ce concours-là, que j'entende parler de ce concours-là, il y a une part de chance. Mais je pense aussi que quand on... Je disais de faire confiance au vide, de faire confiance à la page blanche, les antennes s'affûtent. Il y a quelque chose qu'il y a un sixième ou septième sens qui embarque. On peut peut-être piffer des choses sans qu'on s'en rende compte. On va tourner à droite, on ne sait pas pourquoi, puis hop, il y a quelque chose qui se produit. Mais il faut plonger dans cet inconnu-là, je pense.
Et la relation avec Yvon Deschamps, elle est comment? Comment elle a perduré dans le temps? Est-ce que vous gardez contact?
Je lui ai parlé récemment parce qu'il m'invitait. Ils font toujours une levée de fonds. Puis je peux pas y aller parce que je suis toujours rendu de l'autre côté. Mais
En France,
exactement. Ouais. Tu sais. Mais c'est une relation de j'ai une grande reconnaissance d'abord pour l'artiste que lui et elle sont, mais aussi de ce qu'ils ont fait pour moi. Ça a été des back-passeurs pour moi. Ils m'ont pris d'une rive, ils m'ont amené à l'autre rive, puis après, je suis parti avec mon chemin. De temps en temps, on se donne des nouvelles comment nos chemins vont, mais ça a été des back-passeurs.
Tu viens de le dire, André Sauvé, tu habites de l'autre côté, en France, à peu près 6 mois par année.
Oui.
Tu le dis aussi, tu es fasciné par la nature humaine, mais en France, vous êtes 15 à habiter le village où tu habites.
Oui.
Est-ce que tu aimes l'humanité à petite dose?
Oui, parce que je ne suis pas un gars de monde. Et j'ai toujours dit que pour écrire, pour moi, chacun a ses setups, là, mais pour moi, écrire sur le main, il faut que je m'en éloigne. C'est comme, je compare toujours ça, si tu veux peindre une montagne, ben tu peux pas être dessus. Il faut que tu t'en éloignes pour la regarder puis la peindre. Et j'ai toujours pensé, pour moi, ça a été comme ça. Pour décrire, pour entendre en dedans de moi, il faut que je me retire. Il faut qu'il y ait du silence, il faut qu'il y ait un retrait pour écouter en dedans de soi. Il faut que je me retire du monde.
T'habites un très bel endroit. Moi, j'ai vu une photo là, quand tu es venu à Deux Hommes en Art, dans les Alpes, c'est magnifique.
Ouais.
Est-ce qu'on écrit mieux quand on a un paysage comme ça ou dans un 4,5 à Montréal? Ou c'est la même job?
C'est la même job, mettons qu'elle est... c'est la même job, mais quand même le setup, quand on descend... Mais par contre, l'équilibre de quand je finis d'écrire, je suis matinal, j'écris les matins, et l'après-midi, je descends, puis je travaille dans le jardin avec une brouette, une pioche, puis une pelle.
OK.
Oui, vraiment, charrie. On travaille fort là, avec la pioche, puis la pelle, puis on travaille constamment dans le jardin. On a un grand terrain pour travailler le jardin. Et ça, c'est un équilibre qui est merveilleux. Le travail psychique d'écrire avec la tête, puis après ça, d'ancrer ça dans le physique, puis je trouve des fois des réponses à des numéros pendant que je travaille, pendant que j'y pense pas, puis ça, c'est extraordinaire. Ce setup-là est fabuleux.
Il y a eu des spectacles à un certain moment donné en France, et puis j'ai entendu dans une entrevue que finalement, ça tentait plus ou ça t'intéressait pas. Pourquoi? Ouais.
Parce que je me suis beaucoup questionné sur l'ambition. C'était beaucoup mon questionnement dans ça. Ça m'a pris du temps avant de dire oui pour la France. Et puis j'y suis allé, puis je me questionnais là-bas. Pourquoi je veux ça? Tu sais, pourquoi l'ambition de planter un petit drapeau sur une carte ou d'élargir mon territoire? Puis ça faisait que je n'ai pas cette ambition-là. Moi, je n'ai pas cette sorte d'ambition-là de devenir big ou de conquérir un territoire. Puis après ça, j'ai réfléchi beaucoup. Puis j'ai l'ambition de faire des choses nouvelle, d'explorer d'autres projets, d'autres, de creuser d'autres projets. Puis ça a fait, c'est pas parce que je vais être en France que je vais réaliser cette ambition-là. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai arrêté le projet. Tu sais, comme là, j'avais fait un projet avec l'OSM qui, pour moi, c'était ambitieux puis qui a bien fonctionné. Et ça m'a tellement comme rempli d'essayer des choses neuves. Mais démarrer en France, il faut que tu pousses, puis le PR, puis... Puis là, j'ai fait, non, j'ai pas ce type d'ambition-là. Puis quand ça est venu clair, j'ai dit, c'est plus là, c'est pas par là mon chemin.
C'est le fun, André Sauvé, que t'aies réalisé ça au début de l'aventure.
Oui. Oui,
t'aurais pu te rendre malheureux.
Oui, puis je commençais à le devenir, à un moment donné, de jouer 5 soirs par semaine dans une toute petite salle. Puis c'est pas le petit qui me dérangeait. Au contraire, j'ai l'idée de faire un projet qui est plus petit, une petite salle, plus intime. C'est pas tant le petit, mais c'est répéter pour espérer que la sauce grimpe à un moment donné. Puis là, j'ai fait, c'était pas ça qui me satisfaisait.
Tu parlais tantôt d'Yvon Deschamps qui a été un passeur pour toi. La scène de l'humour au Québec est extrêmement diversifiée. Ouais. Ça a beaucoup changé dans les dernières années. Beaucoup de jeunes qui montent, on joue dans des petites salles, ouais, etc. Qui admires-tu dans les vedettes montantes?
Bien, toute la nouvelle vague de Like Moi puis tout ça, je trouve ça le fun.
Adib Al-Kadili.
Oui, toute cette gang-là qui ont été populaires par cette émission-là, entre autres. Je ne consomme pas beaucoup d'humour, étonnamment, mais ça j'ai suivi ça. L'écriture de Marc Brunet, qui lui, bon...
Un vieux de la vieille,
mais quand même mis par des jeunes. Il y a une écriture tellement pointue, tellement brillante, mais joué par ces jeunes-là. Ce type d'humour-là, je trouve ça... C'est un bel humour d'observation, mais j'en consomme pas tant que ça. Ça va être plus de la littérature qui va me... En fait, c'est pas l'humour qui définit où moi je veux aller. Ça va être par la littérature, des films, des réflexions. C'est ça qui va m'influencer.
Est-ce que tu ris? Est-ce que tu aimes ça rire?
Oui, j'aime bien rire. Mais je suis pas un public. Je me voudrais pas, moi, dans ma salle.
T'es un public difficile.
Oui, je suis un public difficile. J'aurais pas un rire sonore. T'sais. Je voudrais pas plein d'André Sauvé dans ma salle. T'sais.
Avant qu'on aille à la pause, j'avais envie qu'on écoute un autre bout de ce spectacle, ça, où, André, tu parles de tes métiers.
Oui.
Entre autres, mascotte.
Oui, entre autres.
Et là. On va écouter un extrait.
J'avais un contrôle, m'en est dans un centre pour trisomique. Il voulait avoir un gros Garfield. Fait que moi, je m'en vais là en Garfield. Puis un trisomique, c'est très affectueux. Très affectueux. En fait, le trisomique, ça a l'affection d'un enfant, mais le poids d'un adulte, OK? Et ça se trouvait, le trisomique, il l'aimait, Garfield, OK? Mais le gros Garfield, en dessous, il a la shape d'un Q-tip, comprends-tu? T'sais? Écoute, il se pendait après moi. Écoute, moi, t'sais, je revolais dans le saut. J'avais plus de screen qu'ils avaient à la face. Écoute, quand ils m'ont rappelé pour faire un contrat de Peter Pan dans un centre de désintox, j'ai fait ça.
L'image du Q-tip aussi.
Oui,
ça
quand même.
Ça ressemble beaucoup physiquement.
Quand même. Mais c'est un numéro que je parle. C'est des anecdotes de détours qu'on peut prendre dans la vie des paquets de métiers que j'ai pu faire pour me trouver. Tu sais, j'utilise l'humour, puis après, je reviens avec cette réflexion-là de détours qu'on peut faire. Mais ça peut être des grands détours, des fois. Celle-là, je t'ai rendu loin. Là.
André Sauvé, mascotte. C'est une belle image. Merci, André. On va te garder pour la pause. On finit l'émission avec toi. Il est 18h16. 18h20 de retour dans le studio du Québec maintenant. Catherine et moi recevons André Sauvé. Tout le monde aime André Sauvé. Y a-tu quelqu'un qui t'aime pas?
Ben, ils me le disent pas.
OK. Non, mais tu sais, il y a des humoristes. Ben, pense à Mike Ward. C'est très polarisant. Il y a ceux qui l'adorent, qui le vénèrent, et il y en a qui sont prêts à le voir en peinture. Toi, t'es assez fédérateur, je trouve.
Ouais, je suis pas polarisé, peut-être.
Mais t'attaques pas personne non plus dans tes spectacles.
Ouais, juste moi.
Il y a pas, non, mais c'est ça, il y a jamais de gens qui se sentent offensés.
Ouais, puis peut-être ça enclenche pas justement une réaction polarisée ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que je reçois pas de trucs haineux, même. Mais je vois pas beaucoup. Ben, je vois quand même. J'ai un Facebook, là, que je vois de temps en temps voir. Mais c'est vrai que j'ai pas les commentaires dont les gens disent que souvent sur les réseaux sociaux ont, tu sais. J'ai pas ça.
Et quand les gens sortent du spectacle, quand ils commencent à cogiter puis à se poser des questions, est-ce que c'est mission accomplie?
Moi, j'aime ça. Souvent, les gens me disent, après le spectacle, on réfléchit beaucoup, ça suscite des discussions entre les gens, puis des choses qu'ils me disent, ils me racontent sur la rue, puis ça m'est resté quelques jours après, ça me reste... Et ça, j'aime ça. J'aime que les gens partent avec une réflexion. J'aime beaucoup ça. J'aime plus la question que la réponse, tu sais. Et que les gens partent avec une cogitation dans leur tête. Ça j'aime ça parce que c'est fertile, ça continue. Une réponse, ça ferme. Une question, ben ça ouvre à réfléchir puis trouver notre propre réponse à nous autres.
Bon, là, je vais amener les gens dans le studio du Québec maintenant et même dans l'antichambre. Tantôt, je suis allé te chercher dans le petit salon de Cogeco, André Sauvé. Et on m'avait dit, ah, André, il est enrhumé. Puis là, tu me dis, non, je ne suis pas enrhumé, j'aime mieux pas donner la main. Écoute, je veux te féliciter. Parce que nos traditions, André, là, se donner la main, se faire la bise, je suis convaincu que ça fait exploser le nombre de grippes et de toutes sortes de microbes.
Moi, l'hiver, en plus, sur scène, tu veux jamais le rhume, mais à jouer, tu veux encore moins le rhume, mais on rencontre tellement de gens, puis tout ça. Puis... Mais c'est drôle, le fait de ne pas donner la main, puis je dis bonjour aux gens, mais sans donner la main, mais tu sens le
malaise.
L'espèce de malaise que moi-même, je dois gérer. C'est pas que je t'aime pas, c'est pas que mais je veux pas attraper ça, mais tu sens quand même que ce côté instinctif là qu'on a de se toucher, mais je veux pas le rhume.
Puis en France avec la bise, ça doit multiplier.
Ah là, ça multiplie. Puis dans le coin, ce que je suis, c'est trois. Ah, ça c'est exagéré.
C'est trois quoi?
Trois bises,
trois becs. Un, deux, trois. Oui.
Les gars et les filles?
Oui, tout le monde. Hommes et femmes, c'est trois becs. En France, dépendamment des coins, ça peut être deux, trois ou bises. Mais dans le coin, je suis, c'est trois bises.
Tu dois passer l'hiver malade.
C'est exagéré. Ben là, moi, j'ai lâché. Là, je dis non. Là, j'ai dit, moi...
Comment les gens reçoivent ça?
Ben, tu sais, ils apprennent que c'est peut-être un étranger. C'est une autre culture.
Au Québec, c'est comme ça qu'on fait,
c'est
madame.
C'est comme ça qu'on fait. Hey, non, mais quand tu pars d'une table, t'es 7, 8, 9 à la table, calcule ça trois fois chaque. C'est sûr, t'as la grippe. Non, moi, j'arrête ça.
André, t'avais fait des capsules qui s'appelaient Qui l'eût cru, où tu parlais de la langue française. On va écouter un court extrait.
Cette semaine à Qui l'eût cru, on va parler des adverbes. Qu'est-ce qu'un adverbe? Les adverbes, ce sont les petits mots dans les phrases qui vont modifier le sens du verbe. Adverbe. Ce sont les car, pour, donc, ainsi, cependant, toutefois, plutôt, malgré, en effet. Déjà, en les nommant, on sent, ils ont une vibe. Chacun dégage quelque chose qu'on sent qu'il se passe quelque chose. Et on va en voir quelques-uns. Comme en effet. En effet, lui va confirmer ce qui vient d'être dit. En effet, ce que vous avez dit, c'est juste. Lui, on l'aime. C'est moins le cas avec plutôt. Plutôt va amener une rectification. Je comprends très bien ce que vous venez de dire, mais c'est plutôt l'inverse qui s'est produit. Plutôt, lui, c'est une façon polie de se faire dire...
Je trouve que ça fait du bien d'entendre ça, des conseils de langue française. Mm. Pourquoi avoir voulu faire ça? Est-ce qu'il y en a d'autres aussi?
Il y en a d'autres qui vont sonner. J'en fais souvent sur la langue, pas uniquement sur la langue, mais parce que les mots, Mathieu, j'aime la langue, j'aime les mots, puis j'aime tordre la langue aussi. Pour moi, la langue, c'est une boule de plastine. C'est fait pour déformer. C'est fait pour... faut pas être rigoureux avec la langue.
T'es pas un puriste.
Non, pas du tout. Si dans le show, s'il faut que je charisse, je vais dire charisse parce que ça a une couleur, ce mot-là. Je l'utilise consciemment de déformer la langue. Et ces capsules-là viennent de des choses que j'observe la langue parce que j'aime ça, puis je les tourne en drôle, en mettre de l'humour là-dedans, mais à partir du vrai, tu sais.
Est-ce qu'il y a des conseils de ne pas dire « cancon » et puis « si j'aurais »
Bien, c'est sûr que ça peut écorcher les oreilles, mais je pense que ce qui passe en premier, c'est l'intention dans la langue. T'sais, si on l'utilise cancon puis quand j'aurais consciemment dans un mot parce que ça dénote quelque chose sur le personnage, on se doit de l'utiliser. Mais en fait, il faut savoir qu'on le fait. Une règle, il faut toujours... Les règles sont là.
Pour la transgresser, il faut la connaître.
Exact, c'est ça, je cherche ça. Il faut la transgresser pour la connaître, exactement.
Et moi, je trouve que ça devrait être diffusé dans les écoles parce que c'est une façon très ludique
Écoute,
d'apprendre.
On me dit souvent ça.
Et je trouve qu'on retient davantage d'informations.
On me dit souvent ça. Parce que moi, autant j'aime la langue, mais c'était tellement plate quand on me le montrait au secondaire.
C'est vrai.
J'haïssais le français. C'était dole, mais je ne savais pas que ça pouvait être le fun. Tu sais. Je ne savais pas que
ça
pouvait être
le fun. Et là, le paradoxe, tu gagnes ta vie avec des mots.
Exactement.
Quel beau privilège.
Exactement.
Merci beaucoup, André. Sauver.
Grand plaisir. Merci à vous.
Merci.
Merci. C'est maintenant...
Ah oui, mon Dieu, les dates. Je voulais vous dire, une union supplémentaire d'acheter 21 novembre au Théâtre Maisonneuve et en spectacle jusqu'à la fin de l'année au Québec.
À demain.